Vous écoutez Un long chemin, Ousmane, l'enfant du Darfour. Première partie.
Et jusqu'à 2002, le gouvernement il a organisé un très grand mouvement pour détruire le Darfour. C'est catastrophique. C'est les gens, les enfants et les femmes qui sont morts par le produit chimique. Et il n'y a personne qui nous dit rien. La pièce qui vous êtes là, ça fait à peu près la longueur à peu près 20 mètres sur 100 mètres à peu près. Une seule porte et une seule fenêtre. Et là, il n'y a pas de lumière. 50 personnes, on était là. Le trafic des humains, il disait, si vous voulez qu'on libère cette personne-là, il faut payer 500 dollars. Je me suis dit, je viens de sortir dans un pays que j'ai vécu de guerre depuis l'enfance, la misère. Et là, je me suis dit, je suis venu ici avec un grand espoir de vivre dans un pays. Et là, je le vois, c'est pire que de chez moi. Bonjour, je m'appelle Ousmane. Ousmane, c'est un nom qui est du prophète et c'est mon grand-père qui m'a donné son prénom. Je viens du Soudan et ça fait presque 6 ou 9 ans que je suis là ici en France. Je suis là depuis 2016. Je suis né au Soudan, aux régions de Darfour, ce qui est ouest du Soudan. Le Darfour, c'est une région qui existe, le plus grand ethnie, ça s'appelle Fort. Le mot Darfour, ça vient de c'est-à-dire la maison de Fort. Le Fort, c'est une ethnie qui vit au Darfour. Et donc, je fais partie de cette ethnie. Je suis né au Darfour, dans un petit village, il s'appelle Abron Menyo. C'est un petit village, on peut dire compagnie. Je suis né là-bas et j'ai vécu mon enfance. Je viens d'une petite famille, c'est pas très très grand, mais c'est pas trop petit quand même. J'ai un frère et une soeur. Ma maman, elle est décédée à la période de guerre au Soudan. Et mon père aussi, il est décédé avant de ma maman. À l'âge de 10 ans, ni le père, ni la mère. Donc je suis grandi chez ma grand-mère. C'est une histoire d'enfance. Et je me souviens qu'on est en train de jouer le jeu de l'enfance, c'est-à-dire, par exemple, le jeu de football. C'est un jeu de football qu'on fabriquait de chaussettes. On le met à l'intérieur, le torchon. Et après, on le coudre avec des choses traditionnelles. Et on le met sur le terrain et on le joue. Et du coup, parfois on joue, parfois on part dans une montagne, on fait des escalades. En fait, au Darfour, il y a des montagnes et il y a des cascades. Et dans cet endroit, il y a des lacs. Les enfants qui passent leur temps de jouer ou de faire la natation. Et c'est là qu'on passe plus le plupart du temps, on va passer tranquillement le temps. Le moment que j'ai besoin, le moment que je me sens tout seul, c'était ma mère qui était là tout le temps. Et elle me soutient de tout le temps, du moment facile comme le difficile. C'est elle qui m'a encouragé de vivre un peu plus des choses positives, très très positives. Halima, elle s'appelle Halima. À l'époque, je n'avais pas de frère et de soeur. Le frère et le soeur, je l'ai vécu après quand le gouvernement soudanais il a assassiné mon père. Ma mère, elle est obligée de se marier avec quelqu'un d'autre. Au Soudan, la petite ville et la plupart de campagnes, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de hôpitaux, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a rien. Donc, la plupart des Soudanais, on vit dans une agriculture. Notre économie principale, c'est faire l'agriculture de certaines saisons. Après, on attend la saison suivante. Mon grand-père, lui, il est le plus riche dans une campagne. Lui, il faisait un commerce entre l'Égypte et le Soudan. Et il prend sa chameau, il part en Égypte pendant des mois pour chercher des choses pour faire le commerce, pour amener des produits au Soudan. Et il vient pendant des mois pour faire du commerce ici. Et quand il part du Soudan jusqu'en Égypte, il prend des produits. Et quand il revient, il prend des produits. Donc c'est un échange de commercial, quoi. En Soudan, on a plusieurs langues. On a 590 ethnies au Soudan. Et chaque ethnie a son propre langue. Et nous, au Darfour, on a à peu près 90 ethnies au Darfour, dans la région que je vis. Et nous, personnellement, nous, on a une langue qui s'appelle Fort, c'est-à-dire qui vient de l'ethnie Fort. Et nous, on parle de notre langue, notre propre langue. Je parle mon langue Fort. Et après, j'ai appris la langue arabe, parce que j'ai appris la langue arabe après 10 ans après, parce que cet endroit où je vis, tout le monde parle la langue Fort. C'est très peu de gens qui parlent arabe. Au Darfour, la guerre ça a commencé des années 80. Depuis la colonisation anglaise, le Soudan est colonisé par les Anglais. C'était en des années 1899 jusqu'à 1956. Donc, après la colonisation, le Soudan il a vécu une guerre civile et le coup d'État après coup d'État. Le Soudan il a vécu 7 coups d'État et on peut dire 17 tentatives de coup d'État. À chaque coup d'État, c'est le parti politique qui organise le coup d'État. Et après, il reste derrière le rideau. Donc, la conséquence, c'est qu'on vit aujourd'hui la guerre et le conflit. En fait, ça a commencé des années 83. Le président du Soudan, il s'appelle Jafar Annemery. Lui, il a islamisé le Soudan. Alors, le Soudan, c'est un pays qui a énormément de cultures. C'est-à-dire, si vous vivez dans un pays qui a 590 ethnies et vous voulez, avec une différente religion et différentes cultures, et vous voulez avoir une seule identité, donc ça ne va pas se faire. Donc, qu'est-ce qui se passait? Lui, le président Jafar Annemery, il voulait islamiser la constitution soudanaise en islam, c'est-à-dire il n'y aura aucune religion que d'islam, il n'y a aucune langue que d'arabe. Vous parlez arabe, vous restez vivre. Si vous ne parlez pas arabe ou vous n'êtes pas musulman, vous ne pouvez pas vivre. Donc, qu'est-ce qui se passait? Il y a eu un conflit, vraiment un conflit entre le sud du Soudan et le Soudan du Nord. Et ça a commencé à partir de là, ça a commencé la guerre au Darfour lui-même. Ça a commencé des années 80. Des années 80, vraiment des années 89, l'extrême islamique, c'est un parti politique qui fait un coup d'État. C'est un régime qui s'appelle aujourd'hui Omar al-Bashir. Et c'est lui qui organisait un mouvement, ça s'appelle milice, pour détruire le Darfour, pour détruire l'identité du Darfour et renommer un autre nom, pays d'Arabe ou pays, je ne sais pas, n'importe quel nom. Mais de toute façon, il ne s'appellera pas Darfour. Parce qu'il voulait déjà avoir une seule identité de le pays, c'est l'identité arabe. Après, il y a différents, beaucoup de raisons pour détruire le pays, surtout la région Darfour, surtout que je ne connaissais même pas, mais il y a plusieurs régions. Depuis 1989, le conflit s'est commencé parce que le gouvernement donne les armes pour certaines ethnies pour tuer les Darfouriens, les gens qui vivent au Darfour. Et jusqu'à 2002, le gouvernement il a organisé un très grand mouvement pour détruire le Darfour. C'est-à-dire, il donnait les armes, les chars, tous les moyens, même les hélicoptères pour bombarder avec des produits chimiques. C'est catastrophique. C'est les gens, les enfants et les femmes qui sont morts par le produit chimique. Et il n'y a personne qui nous dit rien.
Afrique, dans la province soudanaise du Darfour se déroule un désastre humanitaire dans un certain silence que veut dénoncer ce week-end la communauté internationale. Plusieurs manifestations sont prévues en Europe et aux États-Unis. 300 000 morts en 3 ans, 2,5 millions de déplacés. Il est urgent d'agir.
Donc, en 2012, il y a eu une guerre complète. Ils sont venus, ils ont assassiné beaucoup de monde, ils ont tué les enfants, ils ont violé les femmes, ils ont tué les hommes. Et nous, j'étais enfant, il y avait 10 ans à peu près. À ce moment-là, mon père il est décédé. C'est le gouvernement qui l'a assassiné. C'est-à-dire que mon père il est un chef de village. Le gouvernement il est venu, il a demandé des choses. Et je ne sais pas ce qu'il a demandé exactement, mais mon père, il a refusé. Donc, il a refusé. 2 jours après, ils ont assassiné. Et le lendemain, on a trouvé mort. C'est quelqu'un qui est tué par le couteau. Ça continue d'assassiner et ils ont brûlé tous les villages du Darfour. Et tous les villages du Darfour, ils ont déplacé pour rejoindre dans des grandes villes. Et le Darfour, il y a des grandes villes comme Niala, comme Al-Fashir, comme Jenena. C'est des villes qui sont assez grandes. La ville de Niala, c'est une ville qui est équivalente à la ville de Tours. Quand ils ont brûlé tout le village, ils ont brûlé toutes les agricultures qu'on a récoltées et ils ont pris tous les animaux qu'on a élevés. On n'avait plus rien. Donc, on était obligé de venir dans une grande ville. On est venu, c'est ma mère qui m'a amené au Niala. Niala, c'est une ville qui est au Darfour. Très difficile de déplacer d'endroit pour aller dans un autre endroit. Déjà, on vit dans un petit village où on ne parlait pas la langue arabe. Ce n'est pas tout le monde qui parle arabe. Et là, quand on a déménagé, on n'a pas de maison déjà. Quand vous arrivez, vous connaissez personne et vous ne parlez pas l'arabe correctement. Les ethnies arabes qui vivent dans une ville, quand ils vous voient, en fait, c'est mal vu. Donc, on n'avait pas de maison, on n'avait rien, et on ne connaissait pas la langue, il n'y a personne qui nous aidait. Qu'est-ce qui se passait? Il y avait des organismes européens qui sont venus parce qu'ils ont vu, en fait, il y a tellement de morts, des enfants et les femmes qui sont violées, et les hommes qui sont tous morts. Il ne restait que 60% des citoyens de Darfour. Ils ont tué énormément de monde. Les organismes, par exemple, comme vous avez un organisme qui s'appelle Atiba Bila Houdoud en arabe, c'est-à-dire les médecins sans frontières. Et certains organismes s'appellent UNICEF. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organismes qui sont venus pour aider les gens qui sont réfugiés, qui sont déplacés de l'endroit à l'autre. Ils ont fait une tente. Ils ont fait des tentes un peu partout au Darfour. Et nous, pour nous, ils nous ont fait une tente à côté de Niala. Ça s'appelle un kam. Ça s'appelle Kalmakam. Donc, qu'est-ce qui se passait dans ce Kalmakam? Il y avait énormément d'espace. Et les organismes européens, ils sont venus, ils nous ont donné de nourriture. C'est là que nous on a installé. Et c'était 2003, exactement. Après, en 2003, les organismes ils nous ont dit il faut mettre les enfants à l'école. C'est important. Et c'est là que je me suis rendu compte de la valeur de l'éducation et de l'enseignement, pourquoi l'école c'est important. Là, j'ai compris. Et le camp, ce qu'ils ont fait, ils ont fait un concept par centre, par exemple, centre numéro 1, centre numéro 2, centre numéro 3. Le CAM de Kalma, il est composé par 6 centres chaque centre, il y a une école et un hôpital. Alors, après, quand j'ai vécu la guerre, et quand j'ai vu tout ce qui arrivait aux citoyens, j'ai compris qu'il y a dans une vie qu'il y a injustice. Et qu'est-ce qui nous ramène à l'injustice? Les gens qui ont le pouvoir, ils utilisent le pouvoir à leur intérêt. C'est-à-dire, si aujourd'hui, si je connaissais mes droits, je peux demander mes droits, ça ne devrait pas arriver tout ce qui m'est arrivé. Donc, c'est un manque d'enseignement, d'éducation. Donc, c'est une fierté d'aller à l'école. Je me suis inscrit à l'école. C'est moi-même qui me suis inscrit à l'école. J'ai appris l'arabe au collège. Et après le lycée, je suis arrivé au bac. Après, quand je suis arrivé au bac, la situation s'est dégradée. Ça devient très compliqué. C'est-à-dire, quand quelqu'un il part dehors de cette calme, le camp de réfugiés, il est toujours menacé par le gouvernement. C'est un gouvernement qui donne les armes. Un mouvement, lui, il l'a appelé le force soutien rapide. La force soutien rapide, en arabe, ça se traduit à Guadamassari. Lui donne les armes et viole tous les gens qui sortent de Kalmakam. Ma mère, il est sorti de Kalmakam pour aller chercher le bois. En fait, on n'a pas de gaz ou on n'a pas d'électricité pour faire de cuisine. Donc, nos mamans, elles partent dans une forêt pour chercher le bois et revenir faire de cuisine. Du coup, qu'est-ce qui se passait? Ma mère, quand elle est partie pour chercher le bois, les djendjawites, c'est les milices, soutenus par le gouvernement, ils ont tué ma maman, juste parce qu'elle est sortie. Il y avait plusieurs femmes qui sont avec, ils ont pu fuir, de courir et se sauver, sauf ma maman, elle n'a pas pu courir. Donc, ils ont assassiné par les armes. Je suis tout seul. À ce moment-là, j'ai un frère et un sœur. On n'a pas la même père, mais on a la même mère. Et on a une grand-mère qui reste toujours sur place. Elle n'a pas assez de force pour bouger, mais elle est là toujours pour nous soutenir. Après la mort de notre mère, on est avec une seule personne, c'est notre grand-mère. Donc on restait avec notre grand-mère, voilà. Il y avait énormément de tristesse, de déception. C'est-à-dire, vous êtes né dans un pays, vous êtes citoyen, vous avez les valeurs comme tout le monde, comme tous les humains. Et certaines ethnies, ils viennent vous tuer sans raison. Et les autres ethnies, ils font rien, ils vous regardent. Et c'est là que j'ai perdu l'espoir de vivre au Soudan. C'est là que je me suis dit, cette pays, je suis né dans une guerre, j'ai vécu dans une guerre, j'ai vu des gens qui sont morts en face de moi, j'ai vécu la pauvreté, j'ai vécu le maltraitant, j'ai vécu la faim. Parfois, il n'y a rien de manger. La politique du gouvernement est mise en place pour débarrasser tous les organismes qui aident les réfugiés. Le gouvernement il a décidé de le faire partir du Soudan. Ça, c'était en 2008. Et quand les organismes européens ils sont partis, il n'y a rien à manger. Et vous ne pourrez pas y aller dehors pour aller chercher quelque chose, sinon vous risquez d'être tué. Et si vous restez dans cette calme, il n'y a rien à manger. Donc, ça nous arrive parfois 2 jours ou 3 jours, tu ne trouves pas le manger, tu trouves un petit pain, et tu restes comme ça. C'est la fin. On a une expression qui on dit en arabe, Ajou, c'est Hou al-Faki. C'est-à-dire, la fin, c'est comme les personnes qui vous jugent, en fait, c'est lui qui vous contrôle. Parce que tes pensées, ça ne part pas aller plus loin. Et à cause de faim, que j'ai arrêté l'école. Je ne peux plus aller à l'école parce que je pars à l'école, j'ai faim, je ne peux pas manger. Et je restais avec, dans la classe avec les élèves, ma tête est loin. J'ai du mal à concentrer. Mon niveau, il est réduit. Je n'ai pas la bonne note. Avant, j'avais de très bonnes notes. J'étais un meilleur élève dans une classe. Et ce n'était pas moi tout seul. Il y avait plein comme moi. On a du mal à vivre. Je me suis dit là, c'est compliqué. C'est compliqué. Et je commence à aller en fait plus loin dans une ville où on y est là. Parfois, il faut que tu changes l'identité autant que fort parce que tu ne peux pas dire que je suis un fort et je vais travailler tranquillement comme ça. Non. Tu dis par exemple, je suis telle ethnie et je viens de tel endroit. Là, vous pouvez travailler. Et là, j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à faire les relations avec certaines personnes qui font le commerce de cosmétiques. Ils vivaient au Niala. Et je suis venu avec une autre identité. Je dis à monsieur, je vis au Calma. Et là, l'endroit, c'est pour les réfugiés. Je ne pourrais pas venir de tout le temps. Est-ce qu'on peut avoir une relation commerciale? Et vous me donnez des produits cosmétiques, et je vends. Après, je vous donne votre argent. Il me disait, OK, pas de souci. Il me donne des produits cosmétiques, je vends, et je leur donne leur propre argent. Et le reste que j'ai gagné, ça me permet de vivre ou manger. Un jour, je suis venu au Niala. C'est là qu'il... le gouvernement il m'a attrapé. En fait, vous venez de Calma et en fait, vous êtes de l'ethnie fort. Donc, vous êtes dangereux pour nous.
Comment il a su? Comment ils ont su?
Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu comme ça. Ils m'ont attrapé. Ils m'ont tapé et... Je me souviens, ce moment, ils m'ont fait manger le terre. Ouais. Et la seule parole que j'ai entendue ce moment, c'est un truc racisme. C'est-à-dire, vous n'êtes pas le nôtre comme nous, il ne faut pas rester ici. Sinon, la prochaine fois, on vous tue. Là, je suis rentré au Calma. Là, je ne savais pas quoi faire. C'est compliqué de continuer le commerce. Et en plus, à chaque endroit où tu pars, vous êtes menacé. Et ce n'est pas la première fois que les gens qui me menacent. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, c'est là que je me suis dit, je ne peux pas rester dans ce pays jusqu'à quand je vais vivre comme ça. Est-ce que je veux vivre toute ma vie comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'endroit pour vivre? À partir de là, j'ai commencé à réfléchir, de sortir complètement du Soudan. C'est là que j'ai commencé à me mettre en question. Qui je suis? Pourquoi je suis là, dans cette terre? Alors, c'est une question de religion. On est musulman et l'islam, ils disent il ne faut pas tuer les personnes pour rien. Et là, dans un pays islamique, les gens tuent les gens pour rien. Et le gouvernement, il le courage. Et c'est lui qui est derrière tout ça. Quel type d'islam qu'on vit aujourd'hui? Je me posais beaucoup de questions. Et il y avait beaucoup de questions, mais il n'y avait pas de réponse. Mais le seul espoir que j'avais dans ma tête, vivre dans un monde qui te respecte, qui garde tes valeurs, et voilà. Je commence à penser à partir par le pays le plus proche de Darfour. On a Tchad, Libye, Centrafrique. Mais je me suis dit, je vais partir de ce pays. Le moment quand tout s'est calmé, je veux revenir vivre autant de citoyens. Mais ce moment, je vais partir en Libye. Et là, je commence à poser des questions aux gens qui sont autour de moi. Est-ce que possible d'y aller au Libye ou pas? Et les gens me disaient, oui, c'est possible, mais ce n'est pas comme ça que tu pars. Il faut que tu organises, que tu trouves quelqu'un qui vous aide, qui, tout ça. Et il faut que tu trouves un argent. Je commence à travailler, à retravailler. Je commence à fabriquer les briques pour construire de certaines choses. Je me souviens, toute la journée, je travaillais. Ma journée, ça fait 100 centimes, je crois. Oui, la journée. 100 centimes la journée, je travaillais 3 mois. Et j'ai eu quelques argent. Je donnais les personnes qui peuvent m'aider pour pouvoir aller dans un autre pays. Et au Libye, il y a l'oncle de mon ami qui est parti au Libye depuis les années 90. C'est mon pote qui me dit, si vous voulez aller au Libye, j'ai mon oncle qui va vous recevoir. Mais il ne pourra pas vous aider financièrement. Mais si vous arrivez là-bas, il peut te recevoir. OK. Je commence à aller en Libye. En fait, il y a des camions qui déplacent des produits alimentaires de Niala au Fachir. C'est la dernière ville frontière Soudan-Libye. Si vous voulez aller en Libye, si vous êtes au Niala, vous êtes obligé d'aller par Al-Fachir. Donc, il y a des camions qui transportent des produits alimentaires. La personne qui travaille, il travaille autant de main-d'œuvre qui porte des produits, qu'il met dans le camion et il descend. Et je lui parlais de ma situation. Il me dit, OK, vous me donnez l'argent et je vous transporte jusqu'à Al-Fachir. Il a tenu sa promesse. C'est la seule personne que j'ai rencontrée qui a tenu sa promesse jusqu'à Al-Fachir. Je suis arrivé à Al-Fachir, je ne connais personne. J'ai trouvé quelqu'un avec des vêtements tout déchirés. On dirait, si vous le regardez, c'est une personne qui a perdu la tête, qui vit sur la rue. Et lui, j'ai posé une question, je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous pouvez m'aider? Il me disait, fiche-moi le paix. Je lui ai dit, OK, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Et quand on a commencé à discuter, il me disait, j'ai perdu 3 enfants. C'est la force rapide soutien qui tue tous les enfants. Et il a perdu l'espoir de vivre. Il lui ai dit, je viens de la même situation que vous, mais est-ce que vous pouvez m'aider autant d'oncles ou peut-être autant de citoyens? Il me disait, qu'est-ce que vous voulez? Je lui dis, j'ai besoin de sortir de ce pays parce que je n'ai marre de menaces et de vivre de guerre depuis en France. Il me dit, OK, je connais quelqu'un qui vous aide. Et lui, il connaît quelqu'un qui travaille dans le trafic des humains. C'est-à-dire, c'est un réseau. Il cherche les jeunes de l'Afrique, Congo, Éthiopie, Érythrée, Soudan, toutes les nationalités, tu trouvais un peu partout, même certains Arabes aussi. Ouais. Ils donnent les promesses qu'ils leur amènent jusqu'à de l'Europe. Moi, j'ai aucune idée sur ça. Il dit, OK, c'est promis, vous arrivez là-bas et en fait... Tout est bien, tranquille, vous commencez à travailler, tout va bien, il n'y a pas de guerre, tout va bien. C'était 2014, c'était ça. Donc, je lui dis, je lui fais confiance. Mais la réalité, ce n'est pas comme ça. La réalité, j'ai découvert la réalité après mon arrivée. Dès que je suis arrivé, ils m'ont mis directement en prison.
Qui est-ce qui vous a mis là?
C'est le Libyen, le citoyen libyen. Ce n'est pas tous les citoyens, mais les gens qui travaillent. Qui donne le gouvernement, surtout les armées, les généraux, tout ça. C'est eux qui organisent tout ça. Comme le commerce, comment dire, l'esclave. C'est-à-dire, vous payez l'argent et vous sortez. Si vous ne payez pas l'argent, ben vous restez. Une fois qu'on vous arrive, il y a des chaînes, ils vous mettent sur les chaînes. Ils vous font rentrer. La pièce qui vous êtes là, ça fait à peu près la longueur à peu près 20 mètres sur 100 mètres à peu près. Une seule porte et une seule fenêtre. Et là, il n'y a pas de lumière. 50 personnes, on était là. 50 personnes, et il n'y a rien à manger. Ils te donnent un pain par jour, le matin et le soir. Tout le monde commence à perdre mal à l'aise, tout ça, mais où ils s'en foutent. Et ils vous tapent avec de tubes, des situations insupportables. Quand vous arrivez là, les gens, ils ont blessé partout, pas de manger, pas de nourriture. Vous buvez de l'eau salée, il n'y a pas de l'eau potable, il n'y a que de l'eau salée. Parce que de l'eau potable, ça coûte plus cher que du carburant. Le carburant, c'est moins cher que de l'eau là-bas en Libye. Donc, c'est de... il n'y a rien. Et, je me souviens, le premier jour quand je suis arrivé, en totalité, il y avait à peu près 50 personnes. Il y avait 100 personnes qui sont restées depuis longtemps. Et leur famille, ils n'ont pas l'argent pour l'envoyer, qu'ils sortent de la prison. Ils gardent l'espace. Donc, les gens qui gardent les humains, ils ont chauffé le plastique. Le plastique, quand tu le chauffes, ça devient liquide. Donc, ils mettent sur le dos des personnes qui ne payent pas l'argent. Et ils montrent tout le monde, ils lui disent, regarde, les gens, tous qui sont là, qu'ils ne payent pas leur famille, qu'ils ne payent pas l'argent, ça sera la même chose. Votre tour, ça arrive. Je paniquais. Je me suis dit, je viens de sortir dans un pays que j'ai vécu de guerre depuis l'enfance, les misères. Et là, je me suis dit, je suis venu ici avec un grand espoir de vivre dans un pays et jusqu'à ce que notre pays se répare. Et mal là, je le vois, c'est pire que de chez moi. Mais il y a des endroits, les autres, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits comme celle-là. Et quelqu'un qui m'a parlé, il me disait, c'est érythréen. Il me disait, nous, on était trois personnes. Moi, personnel, ils m'ont mis ici. Et mes amis, on est arrivés en même temps, ils sont pas loin de cette prison. Et chaque personne, il demande l'argent, 800 dinars. Trois jours après, l'oncle de mon pote, de mon ami, il a répondu. Il a dit, vous êtes M. Ousmane? Oui. Vous êtes venu de la part de M. Abakar? Je lui dis, oui, c'est moi. Le trafic des humains, il disait, si vous voulez qu'on libère cette personne-là, il faut payer 800 dinars. 800 dinars, c'est à peu près, à l'époque, 500 dollars. Moi, je n'avais pas cette somme-là. Du coup, qu'est-ce qui se passait? L'oncle, il le promet de donner l'argent à condition qu'il me ramène dans une autre ville. Dans une ville qui s'appelle Benghazi, ils m'ont mis dans un pick-up avec des vitres invisibles. Vous êtes à l'intérieur, vous pouvez regarder les gens, mais les gens qui sont dehors, extérieurs, vous ne pouvez pas regarder. Ils m'ont mis là-bas. Vous traversez à peu près 50 km. Il y a une barrière. Chaque 50 km, quand il y a une barrière, il y a des soldats, il y a des armes. Ils vous arrêtent, ils vous fouillent. Il n'y a rien que vous fassiez. C'est la routine pour le citoyen que ça se passe comme ça. Mais quand vous êtes étranger et vous venez tout seul, ils vont vous attraper, vous mettre en prison. Vous payez pour sortir. Mais nous, quand on arrive, il n'y a personne qui fouille la voiture. OK, passe, passe. Parce qu'ils sont tous en communication. Et là, je suis arrivé, il y a plein de Soudanais dans un endroit. Ils vivaient à peu près 20 personnes dans un immeuble. Ils ont loué un meuble pour vivre et travailler. Et qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, vous savez, monsieur, moi, vous m'avez libéré. Vous avez payé pour moi 800 dinars pour que je sois là. Là, actuellement, je n'ai pas l'argent, mais je vais travailler pour vous donner. Il m'a dit, OK, pas de souci. Je vais travailler et vous me donnez. C'était 2014, à la fin de 2014. Je commençais à aller au travail. La situation commence aussi en Libye ou dégradée parce que si vous êtes étranger et vous êtes en train de marcher sur la route, toujours il y a des gens qui le trafiquent des humains. C'est leur travail en fait. Donc ils vous attrapent et vous mettent en prison. Et là, vos familles, vous cherchez l'argent pour sortir. Et j'ai trouvé plein de monde qui sont coincés, qui n'ont pas l'argent. Ils ont mis en prison et il appelle quelqu'un, il le sort. Et après, pour travailler, pour rembourser l'argent qu'il a payé, ça coûte des années. Mais ça m'a pris, moi personnellement, ça m'a pris depuis 2014 jusqu'en 2016. J'ai commencé par être maçon. Il y a des Libyens qui nous appellent. Monsieur Ousmane, j'ai un mur pour monter ou j'ai un nouveau bâtiment. Est-ce que vous pouvez venir travailler? Ok. Ils nous appellent. Moi, j'engage quelqu'un, aide, maçon. J'ai acheté mes outils. On travaille. On travaille pour la personne, mais elle te donne l'argent complet. C'est-à-dire, vous êtes maintenant d'accord en contrat que vous finissez votre travail, cette mur-là, pour vous donner 200 dinars. Une fois que vous avez fini votre travail, il vous donne 50 dinars. Et 150 dinars, il n'est plus là. Et vous ne pouvez pas dire pourquoi vous ne donnez pas. Parce que d'un coup, ils peuvent vous mettre en prison. Et là, je suis pour le bouger, les personnes qui m'aident, je n'ai pas l'argent pour lui donner. On travaille pour rien. Et j'essaie de gagner un peu plus d'argent. Je commence à penser, en fait, là aussi, je ne peux pas vivre. Et là, chez moi, je ne peux pas retourner. Donc, la meilleure solution, c'est de trouver un pays plus calme que ça. Je commence à penser des gens qui viennent en Europe, mais la moitié sont morts dans la mer Méditerranée. Est-ce que je veux mourir? J'ai connu énormément des amis. Ils sont décidés de traverser la mer Méditerranée pour chercher la paix. Sauf que la plupart, ce que j'ai connu, en disant 60% des gens qui sont morts sur la mer Méditerranée. À chaque jour, quand on regarde sur la télé ou soit on contacte quelqu'un, est-ce que tel monsieur qui était là dans un quartier là, est-ce qu'il est arrivé en Europe? Il dit non, le monsieur il est décédé la semaine dernière. Donc, je ne sais pas trop quoi faire. Est-ce que je reste ici, travailler? Et en fait, on ne me paye rien et en plus c'est risqué. Est-ce que je rentre chez moi au Soudan et vivre sous la menace et la guerre? Ou est-ce que je choisis la mer Méditerranée, soit je mors, soit je traverse? À la fin, je finis par prendre la décision de venir en Europe.
Merci d'avoir écouté Un long chemin. Pour me soutenir et ne manquer aucun épisode, pensez à vous abonner et à liker. On se retrouve dans 2 semaines pour la seconde partie du récit d'Ousmane.